carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Les primitifs italiens. Exposition au musée Jacques Marandré du 11 mars au 21 juin 2009. Une nouvelle fois, Canal Académie a le plaisir de visiter le musée Jacques Marandré de l'Institut de France au cœur de Paris. Cette fois, c'est la collection d'Altenburg des primitifs italiens qui s'offre à nous. Elle fut réunie par le baron allemand Bernard von Lindenau au XIXe siècle. Cet homme politique et diplomate fut élu en 1817 à l'Académie des sciences pour ses travaux d'astronomie et il se distingue notamment comme amateur d'art éclairé. Les plus grands maîtres entre la deuxième moitié du XIIIe et la fin du XVe siècle sont présentés ici. Il s'agit d'une collection d'œuvres exceptionnelles de la pré-Renaissance et de la première Renaissance italienne, l'une des plus importantes collections de primitifs italiens hors d'Italie. Nicolas Saint-Fargarneau, conservateur du musée Jacques Marandré, qui assure également le commissariat de cette exposition, nous fait l'amitié d'une visite guidée à travers les 8 salles. Le parcours suit la chronologie depuis les années 1280 jusqu'au début du XVe siècle, des œuvres réparties entre l'école de Sienne et l'école de Florence. Nous voici donc dans la première salle. Nicolas Saint-Fargarneau, s'il vous plaît.
Oui, merci. En effet, nous sommes dans cette première salle sous le regard, je l'espère, bienveillant du baron von Lindenau, ce personnage que nous voyons ici, qui est le collectionneur, celui qui a rassemblé tous ces panneaux peints, vous l'avez dit en effet, dont les plus anciens remontent à la fin du XIIIe siècle, 1280 très exactement, et puis qui nous permettent de suivre l'évolution de la peinture jusqu'aux portes de la Renaissance, c'est-à-dire vers 1420-1430. Alors c'est un parcours passionnant, je crois, puisque nous permet de suivre l'évolution de cet art, de la peinture, au cours de la période, ne l'oublions pas, qui est une période que nous avons l'habitude de qualifier de Moyen-Âge. Nous sommes en plein Moyen-Âge, avant les temps modernes. La Renaissance, c'est l'âge des temps modernes, et là, nous sommes avant. Avant, ça veut dire quoi? Une période d'habitude qualifiée comme obscure, obscurantiste, sans subtilité, sans culture. Et nous découvrons ici, tout d'un coup, que loin d'être un âge reculé et perdu, nous sommes dans un âge d'or de la peinture avec des panneaux peints de la plus belle qualité.
Et notre regard s'arrête devant Deodato di Orlando, où on sent nettement l'influence byzantine.
Oui, très exactement. Alors, c'est en effet le tableau le plus ancien. C'est un tableau de dévotion privée, c'est-à-dire un tableau qui était accroché chez un particulier. C'est un tableau de petit format, de petite taille. Et vous voyez une Vierge de Majesté. C'est assez étonnant parce que si vous allez à Florence, aux offices, vous verrez de grands panneaux de 4-5 mètres de haut sur 4 mètres de large qui sont des Vierges de Majesté. C'était des grands retables placés sur les autels des cathédrales. Donc, vous voyez des grands formats pour être vus de très loin. Et là, nous avons exactement la même idée, mais qui est destinée pour un particulier, donc tout petit. Et qu'est-ce que nous voyons? Bien écoutez, disons simplement que c'est une icône. Donc, en 1280, à quoi ressemble la peinture? Voilà une image qui nous permet de le dire. C'est une icône. C'est la tradition de la peinture byzantine. Les historiens italiens, dès le XVIe siècle, diront, avec un peu de scepticisme dans la voix, c'est de la peinture grecque. Pour dire que ce n'était pas tout à fait leur manière. En réalité, c'est une peinture de grande qualité avec toutes les caractéristiques de ces icônes telles qu'elles ont été pratiquées à Byzance et puis ensuite, évidemment, dans le monde russe.
Ici, nous voyons un Christ de pitié de Pietro Lorenzetti d'une intériorité bouleversante.
Oui, c'est vrai. Alors là, nous avançons de quelques années. Nous sommes au début du XIVe siècle. Et là, c'est passionnant parce que nous voyons au fond quelque chose qui n'est pas connu suffisamment, à mon avis, qui est à cette époque, Sienne, début du XIVe siècle, au fond, des options artistiques qui s'offrent aux peintres de la période et qui sont multiples et variées. avec Lorenzetti, avec cette représentation du Christ au tombeau, dont on devine la morphologie, l'épaisseur du corps, dont la tête déborde du cadre de son sépulcre, nous avons une image qui s'inspire bien entendu des créations de Giotto à Assise, dans la basilique franciscaine. Par conséquent, c'est une option, disons, d'avant-garde que Pietro Lorenzetti pratique à cette époque, et elle va en quelque sorte s'opposer à une autre option, celle que nous découvrons ici, avec une œuvre extraordinaire d'un raffinement total, qui est une autre Vierge de Majesté. Cette Vierge de Majesté est peinte, nous voyons l'inscription avec la signature, par Lippo Memmi. Alors vous voyez d'ailleurs au passage que entre les deux Vierges de Majesté, celle d'Orlando que nous avons commentée tout à l'heure et celle-ci, la différence de facture est totale. Ici, nous avons une œuvre qui est une œuvre tout en délicatesse, en dessin, en couleur, le chromatisme est extrêmement poussé avec un raffinement total, alors que l'autre Vierge de Majesté avait, je l'ai dit, un sens iconique beaucoup plus fort. Et voilà ici ce qui est passionnant, c'est que nous avons cette deuxième option qui est proposée par Lippo Memmi dans l'ordre de l'écriture picturale. Cette option, c'est celle de la peinture gothique. Et vous voyez le sens de la ligne, ce grand raffinement, l'ourlet qui orne le bord du vêtement de la Vierge, qui vient jouer comme une partition musicale. Vous voyez une qualité ici des demi-tons qui est absolument exceptionnelle. Et là, on comprend que nous sommes devant véritablement un chef-d'œuvre. Or, ce qui est très intéressant, c'est comme je vous l'explique, on passe de l'âge roman à l'âge gothique. Entre les deux, il y a un moment d'hésitation avec Pietro Lorenzetti, et puis c'est le courant présenté ici par Lippo Memmi qui va dominer pendant tout un siècle.
Toujours dans cette première salle dédiée à l'école de Sienne, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, nous voyons une série de 6 panneaux proposant une histoire du Christ par une des grandes figures de cette période, Guido da Siena. Certains de ces panneaux proviennent du musée du Louvre et complètent merveilleusement la collection d'Altenburg.
Oui, c'est exact. Alors ici, nous avons un ensemble reconstitué à partir de 3 panneaux qui font bien sûr partie de la collection d'Altenburg. Et puis, comme on a pensé que c'était utile d'essayer de montrer à notre public comment se présentaient les histoires. Ici, c'est la vie du Christ qui est développée depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, nous avons fait appel aux 3 panneaux d'Altenburg, puis nous avons demandé au Louvre de bien vouloir nous prêter 2 autres panneaux, et pour terminer, au musée d'Utrecht, de nous prêter le 6e panneau. Et ainsi, on peut suivre l'évolution, l'histoire du Christ, je le répète, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et là, nous sommes devant un ensemble passionnant, capital, puisque cette série de panneaux décorait le rétable du grand autel de la cathédrale de Sienne. Alors, cet ensemble a été peint autour de 1270, je répète, 1270. Vous voyez, on est très très loin de nous. Et puis, il a été déplacé au début du XIVe siècle, parce qu'on a mis à la place de ce grand rétable un autre rétable, une Maesta, toujours Vierge de Majesté, de Duccio. Alors on a envoyé cet ensemble dans une chapelle latérale. Et au XVIe siècle, cet ensemble a été envoyé dans une abbaye qui dépendait de la cathédrale. Et jusqu'au XIXe siècle, l'ensemble reste oublié dans cette abbaye. Et au XIXe siècle, alors, c'est l'âge de la dispersion. Et le rétable est démantelé et ce sont des marchands qui rachètent les éléments et qui les revendent à des collectionneurs. Et voilà la raison pour laquelle les panneaux vont dans plusieurs musées. Donc c'est la première fois presque depuis le XVIe siècle que ces 6 panneaux sont rassemblés ensemble.
Vous parlez de la cathédrale de Sienne. À quelle date fut-elle construite ?
Alors, elle est construite au XIIIe siècle et à partir du XIVe siècle, il y a un grand projet d'extension de la cathédrale. Alors, un projet, pardonnez-moi, presque fou, puisque la nef principale de la cathédrale devient le bras du transept. Autrement dit, la nouvelle nef va avoir peut-être 6 fois la dimension de la nef ancienne. Et le projet est tellement pharaonique qu'il ne sera pas achevé. Alors, si vous allez aujourd'hui à Sienne, vous verrez ces murs qui ne sont pas couverts par une voûte à ciel ouvert. Et puis, dans un coin, la cathédrale d'autrefois, avec ses dimensions qui sont déjà gigantesques. Et c'est là que tous ces panneaux se présentaient autrefois. Voilà, c'est un projet un peu fou qui a été entrepris, mais qui n'a pas été achevé.
Nous ne pouvons quitter cette salle si riche sans poser notre regard sur une autre série de panneaux sur bois par l'Hippomémé. Tout à l'heure, nous étions en admiration devant sa Vierge à l'enfant. Et ici, nous sommes particulièrement frappés par un Saint Jean-Baptiste et un Christ bénissant.
Oui, alors c'est un deuxième exemple, il y en a plusieurs dans l'exposition, de ces reconstructions que nous avons essayé de faire. Parce que les historiens de l'art qui ont essayé de cataloguer et d'étudier les panneaux dans tous les musées, notamment Altenburg, se sont dit, mais voyons, cette peinture en forme de pinacle, c'est-à-dire, vous voyez, le support triangulaire à l'intérieur de laquelle nous voyons ces figures, ces personnages, comment se présentait-elle autrefois ? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des éléments de ce qu'on appelle des polyptiques. Polyptiques qui vient du latin et veut dire plusieurs éléments qui sont rassemblés pour former donc une image. Et ces éléments donc ont été au 19e siècle, comme je vous l'expliquais, séparés les uns des autres, vendus à part et donc distribués dans plusieurs musées. Alors l'objectif c'était d'essayer de montrer à quoi cela ressemblait. Et ici vous avez cette grande figure du Saint Jean-Baptiste à droite, vous voyez, en grandeur naturelle, et puis la série des quatre pinacles autour avec le Christ rédempteur qui vient non pas d'Altenburg mais du musée de Douai, les deux moines ici d'Altenburg et le dernier panneau que vous voyez ici qui est une Sainte Madeleine qui vient du musée du Petit Palais d'Avignon. Et alors c'est aussi un panneau très intéressant parce qu'il a comme provenance célèbre en France la collection Campana, hein, vous voyez, qui était un peu postérieure à la collection Lindenau.
Nous passons maintenant dans la deuxième salle qui propose des œuvres d'artistes actifs à Sienne dans la deuxième moitié du XIVe siècle.
Avec des artistes, notamment le plus important d'entre eux qui est Andrea Vanni, représenté ici avec deux grands panneaux, toujours des reconstitutions d'ensemble. Le panneau d'Altenburg, c'est le Saint François d'Assise, pardon, que vous voyez ici à gauche. Et de l'autre côté, vous avez un apôtre Saint Jacques qui donc faisait partie du même ensemble. Démantelé, c'est toujours la même histoire. Début du 19e siècle, les choses sont séparées. Alors, le Saint-Jacques va au musée de Naples, au Capodimonte, tandis que le Saint-François d'Assise part en Allemagne, à Altenburg. Et aujourd'hui, pour la première fois, ils sont à nouveau rassemblés. Voilà. Et vous voyez, encore, toujours dans cette tradition de la grande école siennoise, la délicatesse du coloris, la finesse des traits et ce sens de l'élégance qui est tout à fait remarquable.
Ici, un Paolo di Giovanni Fei, une Vierge à l'enfant d'un raffinement extrême, toujours sur ce fameux fond d'or de cette époque.
Bien sûr, c'est une peinture qui n'est pas une peinture en profondeur, ça n'est pas une peinture en perspective, comme ça le sera plus tard. Et vous voyez ici que ce qui domine, à la fois le coloris extrêmement brillant, mais surtout le sens de la ligne. Alors vous avez l'encadrement, vous avez la position des anges et des saints qui entourent la Vierge à l'enfant, formant une espèce d'encadrement semi-circulaire. Vous avez la délicatesse du manteau de la Vierge dont le revers se dessine sur l'ensemble de la silhouette. Vous avez encore et toujours les plis majestueux des manteaux des saints qui entourent la Vierge avec, vous le voyez ici, ce sens si délicat de la couleur. D'un côté, un rose très prononcé, de l'autre côté, un bleu plus foncé. Mais vous le sentez ici, très sensible, les éclats de lumière qui sont marqués et qui indiquent bien que ici, nous avons affaire à des artistes artistes qui s'intéressent beaucoup à la matière et qui essayent de rendre au mieux les effets de la lumière sur les matières. Donc voilà ce panneau, en effet, tout à fait caractéristique de la peinture siennoise à la fin du XIVe siècle, toujours caractéristique de, je le répète là encore, ce sens de l'élégance, de la grâce qui se manifeste dans toutes ses productions.
Une autre œuvre majestueuse, très caractéristique de cette recherche de profondeur, cette dévotion siennoise, une Vierge et l'Enfant avec toute une symbolique autour du péché par Angelo Puccinelli.
Oui, là c'était une œuvre qu'on peut aborder peut-être de façon un peu différente. Le premier point souligné ici, c'est l'iconographie. L'iconographie, donc le sujet du tableau, vous voyez toujours, c'est encore et toujours une Vierge de Majesté. Alors, celle-là, elle est présentée assise sur son trône avec toujours les saints et les saintes qui l'entourent. Mais regardez comment le pavement, comment le tapis, comment le trône lui-même, tous ces éléments sont traités avec une espèce de stylisation gothique très étonnante et non pas le sens de la forme et de la masse. Donc, c'est une vision beaucoup plus linéaire et structurée que précédemment, et qui vraiment manifeste vraiment le caractère de cet artiste. Le point intéressant dans ce tableau, c'est la présence au pied de la Vierge, vous voyez, d'un personnage allongé, vêtu d'une peau de bête. Et pour comprendre qui il est, ce personnage, il faut regarder légèrement à droite, et que découvre-t-on ? Un serpent. Alors nous comprenons qu'en réalité, il s'agit d'Ève, et que c'est Ève qui a péché, qui a engendré le malheur du monde. Mais heureusement pour nous, et alors nous levons légèrement les yeux, heureusement pour nous, la Vierge à l'enfant, avec l'enfant Jésus, sera la Vierge rédemptrice, une autre femme qui est un enfant surtout, qui vont sauver le monde. Et pour que les choses soient bien claires, vous levez encore les yeux pour arriver en haut du panneau et vous découvrez une nouvelle scène, c'est la crucifixion, c'est-à-dire c'est le sacrifice de Jésus fait homme qui va permettre le rachat du monde. Et là, nous avons en raccourci une leçon théologique qui nous est offerte par ce tableau. Alors la deuxième raison passionnante qui suscite notre intérêt, c'est que ce tableau a été attribué très récemment à l'artiste que vous avez cité, à savoir Angelo Puccinelli. Alors, qui est Angelo Puccinelli ? Eh bien, c'est un artiste qui est né à Lucques et puis qui a surtout travaillé à Sienne. Mais c'est un artiste qui était documenté. Jusqu'à une date récente, on avait trace de son activité, de commandes qu'il avait reçues. Et on n'avait pas pu identifier d'œuvre qu'on puisse lui rendre avec certitude. Et heureusement, on a pu en effet déterminer une œuvre en particulier qui pouvait lui être restituée avec assurance. Et à partir de là, on a regroupé autour de ce panneau toute une série d'œuvres qui présentaient les mêmes caractères, dont le panneau d'Altenbourg. Et voilà, vous le voyez avec sa taille très grande, ici une œuvre qui nous propose le travail d'un artiste oublié pendant 4 siècles, quasiment 5 siècles, et puis tout d'un coup, grâce au travail des historiens de l'art, qui retrouve son identité.
Nous arrivons au XVe siècle, dont la première moitié est représentée par un groupe d'artistes de Giovanni di Paolo à Sanno di Pietro, dont les œuvres exaltent la richesse chromatique et la qualité expressive. Nous voyons plusieurs panneaux de la vie du Christ par Giovanni di Paolo, un des artistes siennois les plus actifs de cette période.
Voilà, alors c'est un nouvel exemple de ces reconstitutions que nous avons tenté de faire. Au milieu de cette vitrine, vous avez une crucifixion sur fond d'or, bien sûr, par Giovanni di Paolo, et elle est entourée de part et d'autre par 2 panneaux qui sont des prêts remarquables, extraordinaires, que la Pinacothèque Vaticane nous a consentis. Et vous voyez le développement de l'histoire du Christ avec, à gauche, le Christ au Jardin des Oliviers, au milieu, je le disais, la crucifixion, et à droite, vous avez la déposition de la croix, après la mort du Christ. Alors, ce qui est passionnant, c'est que la tradition siennoise, du fond d'or, du sens de la ligne, de la polychromie, vous pouvez la constater ici très clairement sur le panneau central représentant la crucifixion. Maintenant, si vous regardez à gauche la scène du jardin du Christ au jardin des Oliviers, que peut-on dire ? D'abord que le fond d'or est remplacé par un vrai paysage. Vous avez ici cette forêt qui nous est suggérée, puis une rivière, un pont qui la traverse, et au loin vous avez des fortifications, une ville, et au fond encore on devine des montagnes. Mais au-delà de ces éléments qui appartiennent au naturel, je voudrais surtout insister sur un point. Si on revient aux évangiles qui racontent la vie du Christ et qui racontent en particulier cet épisode du Christ au jardin des Oliviers, nous apprenons que cette scène a lieu de nuit. Et voilà pourquoi les apôtres qui sont autour du Christ dorment. En fait, ils sont épuisés, ils se sont endormis et seul le Christ est là qui veille avant qu'il ne soit capturé et avant son supplice. Et que voit-on dans le lointain ? Eh bien, on voit cette bande armée de soldats, ce sont les Romains qui viennent capturer Jésus. Et que tiennent-ils à la main ? Des torches. Et vous voyez les effets lumineux qui entourent cette scène, et on comprend dès lors que le peintre a voulu nous faire comprendre que c'est une scène nocturne. Donc vous voyez ici un tableau 4 siècles avant le Caravage qui traite d'une nuit dans la peinture. C'est absolument extraordinaire.
Nous nous trouvons là devant une œuvre particulière, un panneau à double face sur toile qui fait exception à l'ensemble de la collection d'Altenbourg car elle appartient au fond de Jacques Marandré. Une bannière de procession de Pietro di Giovanni d'Ambrogio.
Oui, absolument. Alors là, vous le voyez, c'est un grand panneau, vous l'avez souligné, mais plus exactement, c'est une peinture sur toile, alors que jusqu'à présent, nous avons évoqué des panneaux peints sur support bois, et ici, c'est une toile de lin. Grand format, et on le sait puisqu'on a retrouvé la commande de l'œuvre, c'est en fait un étendard qui était peint sur les deux côtés, avec d'un côté l'apothéose de Sainte Catherine et de l'autre côté la crucifixion du Christ. Pourquoi ces sujets, et notamment l'apothéose de Sainte Catherine ? Eh bien parce que cet étendard était l'étendard de la confrérie de Sainte Catherine. Et donc cette confrérie avait commandé à un artiste nommé Pietro di Giovanni di Ambrogio de peindre ce grand étendard, cette grande bannière, on dit aussi, c'est le terme qui est souvent utilisé en Italie, cette bannière. Et donc il avait représenté de façon extrêmement délicate, regardez les visages de ces anges qui entourent la Sainte Catherine, regardez, ils portent les instruments du supplice de Sainte Catherine, mais ils ont l'air tellement heureux qu'on ne peut pas croire une seconde qu'il s'agit d'une scène de supplice. Et puis cette bande remarquablement traitée avec des petits tondi représentant les différents saints que la confrérie vénérait également.
Un autre exemple de la diversité de création de Pietro di Giovanni d'Ambrogio est présenté à côté de la bannière de Sainte Catherine. Ce sont des épisodes de la vie des saints très imagés. Par exemple, le départ de Saint Augustin pour Rome ou l'entrée du Christ dans Jérusalem.
Naturellement, ce peintre, présent dans les collections d'Altenbourg, avec le panneau qui représente ici le Saint-Augustin, c'est un autre ensemble, donc un triptyque ici. La partie supérieure représentait des grandes figures, et en dessous, dans ce qu'on appelle les prédelles, il y avait 3 panneaux représentant des scènes de la vie du Christ. Et ce que nous avons essayé de faire et réussi, je dois le dire, c'est d'obtenir l'accord de 3 musées différents. Donc le musée de Berlin, la Gemäldegalerie, le musée de Parme, la Pinakothek Stuart, et le musée de Bâle, de nous prêter, le temps de l'exposition, ces œuvres qui viennent en complément du Saint-Augustin d'Altenbourg. Et là encore, je le souligne, c'est la première fois depuis le début du XVe siècle que ces œuvres sont à nouveau réunies. Et évidemment, c'est très intéressant parce qu'on peut analyser les différences de style d'un panneau à l'autre. Si on reconnaît la facture et la manière de Pietro di Giovanni di Ambrogio, en même temps, on voit qu'il y a une évolution sensible d'un panneau à l'autre. Alors ça, c'est vraiment très intéressant.
Vous voulez dire qu'il y a une progression de style notable entre, par exemple, la naissance de Saint-Nicolas et l'entrée du Christ dans Jérusalem ?
Oui. Alors, pardonnez-moi, mais je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens que les choses se font. C'est-à-dire que l'entrée du Christ dans Jérusalem, ici, vous le voyez, est traitée dans la façon siennoise, très traditionnelle, avec ce sens de la ligne, du mouvement, avec un coloris d'une délicatesse et d'un raffinement étonnant. Et puis, regardez ici, avec la naissance de Saint-Nicolas, nous sommes dans un patio avec un jeu d'architecture, avec ces lignes de fuite qui vont dans le lointain. Et là, on se dit, cet artiste a tout compris de la perspective moderne. Et donc, vous voyez que d'un panneau à l'autre, eh bien, il y a cette différence. Et ça veut dire que, au moment où l'artiste réalise le triptyque, il a connaissance de cette révolution picturale en cours à Florence notamment, et il s'en inspire. Voilà, on termine cette présentation de l'école siennoise au milieu du XVe siècle avec un artiste passionnant. C'est Libéral d'Aveyron. Alors je dis qu'il est passionnant pour deux raisons. Parce que c'est le plus siennois des artistes, bien qu'il ne soit pas né à Sienne. Libéral d'Aveyron, ça veut dire qu'il vient de Vérone, donc du nord de l'Italie. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il arrive tardivement à Sienne et malgré son éloignement de la culture siennoise, il va totalement adhérer à ce sens si particulier qu'on a vu développer depuis un siècle avec tous ces exemples dans le sens de l'élégance, de la ligne, de la délicatesse des traits. Vous le voyez ici avec ce petit panneau présentant une Vierge à l'enfant. Et que se passe-t-il ici ? Quelque chose de proprement renversant, puisque ça n'est plus la mère, la Vierge qui regarde son enfant et éventuellement qui lui adresse un sourire ou qui le caresse de la main, c'est l'enfant qui serre sa mère très fort contre lui, se presse contre sa joue et l'étreint. Alors vous le voyez, c'est l'enfant Jésus ici qui est le plus actif, le plus affectueux à l'égard de sa mère. Et c'est un magnifique moment d'amour filial que l'on découvre ici.
Oui, chose remarquable ici chez Libéral et d'Aveyron, l'enfant Jésus a des traits parfaitement harmonieux, très très délicat, alors que l'on est souvent surpris par des traits, disons, rustiques que les peintres de cette époque donnent à l'enfant.
C'est vrai, ces artistes n'étaient pas toujours à l'aise dans la représentation des figures d'enfants nouveau-nés, et là on a un magnifique exemple qui prouve le contraire.
Nous quittons l'école de Sienne pour l'école de Florence au XIVe siècle avec quelques éminents artistes comme par exemple Bernardo Daddi.
Oui, trois panneaux de Bernardo Daddi. Alors Bernardo Daddi est un des collaborateurs de Giotto, du grand Giotto florentin. Et ici, nous avons la chance de pouvoir présenter les trois œuvres qui appartiennent aux collections d'Altenburg. Alors il faut vraiment remercier Madame Pendorf, la directrice d'Altenburg, parce qu'elle a accepté de se séparés de trois trésors absolument merveilleux dont nous bénéficions aujourd'hui. Un panneau représentant le couronnement de la Vierge à droite, au milieu un petit triptyque portatif représentant une Vierge de Majesté, vous voyez encore comme à Sienne, toujours ces Vierges de Majesté, et puis à gauche là-bas vous avez une crucifixion. Et arrêtons-nous un instant sur la Vierge de Majesté. D'abord parce que c'est un modèle que nous n'avons pas encore rencontré. C'est un petit autel portatif, donc probablement un évêque, un abbé ou peut-être un commerçant d'ailleurs. En tout cas, quelqu'un qui avait besoin de voyager et donc qui emmène avec lui un objet de culte. Le soir, il va l'ouvrir, les volets s'ouvrent. Vous voyez, on voit des images qui apparaissent et il va pouvoir faire ses prières et ses dévotions. Alors, qu'est-ce que ce triptyque représente ? Une Vierge, encore, une Vierge de Majesté. Mais là, vous voyez que la Vierge n'est pas assise sur un trône, pas seulement assise sur un trône, elle est placée sous un petit édicule. Et vous voyez surtout que cet édifice est traité en perspective. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit le souvenir de la Maestà de Giotto qui apparaît ici. Et là, l'influence directe de l'un sur l'autre est très claire. La deuxième chose, je crois, qui est passionnante, regardez, la Vierge a sur ses genoux l'enfant Jésus. Mais que fait l'enfant Jésus ? Rappelez-vous cette Maestà de Deodato d'Irlando, le premier tableau que nous avons commandé. Les figures étaient hiératiques, immobiles. Et ici, vous avez un petit garnement. Regardez l'enfant Jésus, il est en train de bouger sur les genoux de sa mère, il se tient très mal et comme il risque de tomber, que fait-il ? De sa main, il s'appuie sur le pilier de l'édifice. Et vous voyez, une idée aussi naturelle, elle est prise dans la vie quotidienne. Le fait d'associer une image religieuse représentant la divinité avec un petit fait de la vie courante, ça, c'est une grande innovation que Bernardo Dadi a osé. Ah, c'est tout à fait audacieux.
Et puis aussi une magnifique crucifixion aux couleurs étonnamment éclatantes, toujours de Bernardo Dadi.
Oui, alors vous voyez, ça c'est vraiment une chose formidable et passionnante parce que je viens d'essayer de vous expliquer en quoi le triptyque portatif était intéressant. Ici, nous avons une crucifixion du même artiste et nous avons sur ce tout petit panneau, nous avons des éléments qui montrent l'étendue du talent de ce peintre parce que ces éléments ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai commentés précédemment. Regardez par exemple comment est traité le corps du Christ. Au fond, nous avons l'épaisseur, la profondeur, le rendu de la morphologie, c'est-à-dire toute une série d'éléments réalistes. Et ça montre que Dadi avait bien regardé le corps humain, comme d'ailleurs son maître Giotto l'avait fait avant lui. Et de façon presque contradictoire, vous avez devant cette scène qui, ne l'oublions pas, est dramatique. C'est la mort de Jésus. Sa mère est devant lui, au bas de la croix, et elle assiste à son martyre. Et pour signifier le climat de tension dramatique qui apparaît dans cette scène, regardez comment Dadi suggère cette intensité des sentiments. Des formes qui se limitent à des figures quasi géométriques qui elles-mêmes sont traitées d'une seule couleur. Un manteau bleu, un manteau rouge, un manteau quasiment noir. Ce sont les habits d'un personnage, ce sont aussi l'expression, les sentiments de ce même personnage. Et le rouge et le bleu et le noir sont là pour provoquer chez nous des réactions sensitives qui sont celles de l'intensité dramatique. Ces critères, ces valeurs que Dadi utilise ici se rapprochent beaucoup de celles qui avaient été utilisées dans l'école siennoise. Et ça, c'est très important parce que nous voyons en réalité que les influences d'une école à l'autre jouent dans les deux sens.
Ici, nous arrivons devant le grand Giotto. Je voudrais bien vous demander, Nicolas Sainte-Fargarneau, de faire un petit moment d'arrêt pour nous expliquer le phénomène Giotto, cette figure clé de ce XIVe siècle italien. En quoi Giotto a-t-il quasiment révolutionné l'art de cette époque ?
Écoutez, c'est bien volontiers que je réponds à votre question. Giotto, c'est un artiste qui commence à Assise. On le devine dans des premiers travaux où il est toujours tenant de ce qu'on appelait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière grecque. Et puis le voilà qui invente quelque chose qui se rapproche de nous dans le sens où il s'applique à représenter le monde extérieur, il s'applique à donner des sentiments à ses personnages et il s'applique à peindre d'une façon qui est nouvelle dans le sens où la lumière va dessiner les formes et non pas des traits comme avant avec cette école de peinture byzantine que j'ai évoquée. Et regardez ici ce Saint-Jean qui est un panneau qui appartient aux collections Jacques Marandré, mais déposé dans l'abbaye royale de Chaly, qui est l'autre partie de la fondation Jacques Marandré. Nous avons un personnage très monumental, mais regardez comment le manteau est traité avec des plis. Les plis sont montrés, peints avec des zones d'ombre et des zones de lumière. Tout cela définit les formes, tout ce qui n'existait pas précédemment. Et puis, regardez le visage. Regardez, c'est un visage expressif. Et regardez cette figure aussi. D'un point de vue de l'iconographie, c'est passionnant, puisque nous avons un saint Jean-Baptiste qui n'est pas le jeune disciple du Christ, un berbe, comme il est représenté souvent, mais c'est un vieillard, vous voyez, avec le crâne dégarni, puis une longue barbe sous le menton. Et donc ici, nous avons toute une série de caractères qui montrent le souci du réalisme que Giotto manifeste. Alors, c'est en ce sens, en effet, qu'on peut dire que Giotto était un grand peintre révolutionnaire.
Il était très actif dans beaucoup de régions en Italie. Nous connaissons tous le Giotto des fresques d'Assisi, mais toute l'activité de Giotto s'étend bien au-delà de l'Ombrie et de la Toscane à l'Émilie-Romagne. Il y a par exemple de magnifiques Giotto à Ravenne et plus loin à Rimini.
Alors, vous savez qu'il est allé à Rome, il est descendu à Naples, mais il a été aussi, vous l'avez dit, à Rimini, et puis il a été à Bologne. Bon, et on suspecte d'ailleurs même qu'il a été plus haut dans ces régions septentrionales. Donc oui, c'est un artiste itinérant, et il a en quelque sorte diffusé son style et sa manière par l'intermédiaire de ses voyages.
Nous arrivons à la dernière salle, devant encore d'autres chefs-d'œuvre, et notre regard est tout de suite attiré par plusieurs tableaux de Fra Angelico.
Angelico, qui est la grande figure justement de Florence dans le premier tiers du XVe siècle, donc nous avançons dans le temps et nous voyons avec Fra Angelico quelque chose de très rarement atteint, c'est-à-dire une sorte d'équilibre entre la poésie pure, et regardez comment le traitement de la couleur chez lui atteint des sommets, des couleurs pures avec des harmonies d'un ton à un autre, qui est une chose tout à fait exceptionnelle. Et puis en même temps, c'est un artiste. Regardez cet autre panneau où on voit deux saints, Saint Côme et Saint Damien, qui sont en train de sauver un malheureux blessé qui a la jambe coupée. Ils sont en train de raccommoder la plaie et puis de ressusciter cette jambe qui est représentée ici toute noire. Ça veut dire qu'elle est morte, en quelque sorte. Eh bien, vous voyez que la scène se tient dans une chambre, signifiée avec sa profondeur. Vous voyez qu'il y a des perspectives tout à fait correctes qui nous permettent de suivre et d'aller au fond de la scène. Et vous voyez de part et d'autre une fenêtre, ici une porte ouverte avec des dégagements et des couloirs. Et vous avez encore une chose encore plus étonnante. Vous avez, comment dire, autour du lit, vous avez ces rideaux qui viennent clore l'espace. Et ces rideaux, regardez-les, sont traités avec des effets d'ombre et de lumière. Et donc, ce sens du volume, ce sens de l'espace, qui est l'idéal moderne des artistes de la Renaissance, il est déjà présent chez Fra Angelico, mais sans que ce côté très scientifique, très rigoureux, ne tarisse la source de la poésie et de la magie. C'est la capacité que Fra Angelico a eue de pouvoir tenir ces deux valeurs en apparence si opposées qui font évidemment de sa peinture, de ses œuvres, des réalisations tout à fait remarquables. Et ici, nous avons avec Altenburg quatre panneaux qui sont présentés, auxquels nous avons pu adjoindre un cinquième venant, je le disais, du musée San Marco de Florence.
Et pourtant, nous ne reconnaissons pas dans cette toile les lignes et les tonalités douces de l'emblématique Annonciation du couvent de San Marco. C'est tout à fait une autre palette.
Écoutez, oui et non, dans la mesure où, évidemment, la célèbre Annonciation a peut-être plus de délicatesse dans le rendu des personnages et de leur silhouette. Mais si vous regardez bien, au fond, l'architecture qui entoure la scène, avec ce sens de la perspective, c'est exactement le même. Voilà, on peut dire aussi peut-être que la scène est plus sévère puisqu'il s'agit d'un miracle à propos d'un mourant peut-être, et puis c'est une scène avec trois hommes, alors qu'évidemment avec l'Annonciation on a une figure angélique et puis la Vierge Marie. Donc nous sommes dans une sorte de grâce totale, évidemment la représentation est plus délicate.
Pour terminer notre visite de cette superbe exposition des primitifs italiens, nous disons adieu devant le dernier tableau, un Saint Jérôme de Fra Filippo Lippi.
Oui, c'est un panneau très étonnant parce que on peut dire qu'avec ce panneau, nous passons dans l'histoire. Alors, il faut que je m'explique. Jusqu'à présent, les scènes qui ont été traitées sont des scènes de l'histoire religieuse qui décoraient des chapelles, des oratoires, quelquefois des cathédrales, comme on l'a évoqué. Et avec ce panneau qui représente un Saint Jérôme pénitent et puis un jeune carme devant lui, nous sommes devant une œuvre, comment dire, qui a sa propre histoire. C'est un tableau qui a été offert par le peintre Lippi à ce jeune novice. Lippi était un moine carme autant qu'un peintre, et donc il a offert à ce novice qui devait rentrer dans le même ordre que lui un tableau comme un modèle de vie. Voilà, Saint Jérôme, c'est ce personnage qui s'est retiré au désert pour vivre dans l'ascétisme, dans le recueillement, dans la méditation, loin des ors du monde. Et donc voilà, c'est le modèle qu'il propose au jeune qui est à ses côtés. Et puis aussi ce tableau qui a été donc un don de Lippi au jeune novice, ensuite a été repris par Lippi et a été offert à Côme de Médicis. Et Côme de Médicis, c'est le premier prince de Florence, premier membre de la famille Médicis qui devient un grand mécène au sens de la Renaissance. Et plus tard, le tableau est mentionné dans les inventaires des trésors Médicis. Donc c'est très étonnant de voir que cette œuvre, elle quitte d'une certaine façon l'univers de la religion du Moyen-Âge et elle rentre dans notre univers moderne. Alors c'est avec ce dernier clin d'œil qu'on va se quitter, en saluant évidemment cet autre chef-d'œuvre de Fra Filippo Lippi.
Merci beaucoup Nicolas Sainte-Fargarneau de cette visite guidée, rare et précieuse, par visiblement un amoureux de cette peinture. Permettez-moi de vous retenir encore quelques instants. Je voudrais préciser pour nos auditeurs quelques notions sur ce que nous venons de voir et d'entendre, Nicolas Sainte-Fargarneau. Peut-on proposer une définition des primitifs italiens ou une délimitation dans l'histoire de l'art? À quel moment vraiment commence cette période artistique et à quel moment elle se termine?
Alors, deux remarques. Tout d'abord, le terme de primitif, c'est un terme qui est inventé au tout début du 19e siècle, au moment justement où on s'intéresse, on commence à s'intéresser à cette peinture. Et primitif, ça veut dire quoi ? Les arts primitifs. On comprend que c'est un petit peu péjoratif. En réalité, les historiens de l'art du 19e siècle avaient pour idée que ces artistes, cette peinture, précédait la grande peinture de la Renaissance avec les maîtres comme Raphaël et Titien. Alors forcément, ils étaient peut-être un peu moins talentueux, mais en réalité, ils pensaient évidemment que cette peinture et les artistes qui l'avaient réalisée étaient de la plus haute qualité. Alors maintenant, pour répondre à votre question, c'est une peinture, comme je le disais, qui se situe à la période médiévale. Donc nous sommes non pas au début du Moyen-Âge, au sens où nous l'entendons d'habitude, c'est-à-dire le début du XIe siècle, mais nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Comme je le disais, avec le début de l'exposition, nous voyons le passage du roman au gothique. Et en fait, tout le parcours que nous avons fait, c'est essentiellement la traversée de cette peinture dans l'âge gothique jusqu'au début de la Renaissance. Alors, le monde artistique et culturel, à Sienne comme à Florence, la Renaissance, c'est 1415-1420. À Florence en particulier, il y a eu Masaccio, qui est vraiment l'artiste dont on dit qu'il est celui qui a repris le flambeau et qui a, comment dire, fait franchir le pas à toute l'école florentine pour rentrer véritablement dans l'âge moderne. Et après lui, il y a, je vous l'ai montré, Fra Angelico et quelques autres. Vous voyez, alors c'est dans cette tranche chronologique que l'on situe la peinture des primitifs.
Actuellement, les primitifs, surtout italiens, sont très en vogue en France. Il y a plusieurs expositions, à Paris notamment. Alors, d'où vient cet attrait pour les primitifs italien en particulier. Nous savons que les fameux fonds d'or italiens avaient été totalement négligés durant les siècles classiques, par exemple. Et aussi, comment cet art ancien et religieux peut-il parler aujourd'hui à une jeunesse sans doute moins sensible à de telles valeurs ?
Je vais essayer de vous répondre. Tout d'abord, pour vous dire que ces représentations qui tiennent essentiellement à l'histoire religieuse, vous avez tout à fait raison de le souligner, ce sont des représentations qui méritent d'être expliquées parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a perdu le sens du religieux. Et de ce point de vue-là, il faut un petit peu réapprendre les choses. Mais je pense que c'est bien le rôle des musées que de quelquefois réapprendre, de montrer à réapprendre les choses. Donc voilà, bon, premier élément de réponse. Oui, alors pour répondre à votre deuxième question, comment comprendre l'attrait qu'on peut aujourd'hui voir autour de ces primitifs ? Moi, je dirais simplement que, vous savez, dans l'histoire de la culture et des arts, en tout cas en Occident, on a connu un certain nombre de révolutions. Avec le début du XVe siècle, on voit l'intervention du monde réel dans la représentation picturale. Ça veut dire que la peinture devient en trois dimensions avec la perspective et la profondeur. Et puis maintenant, si vous me permettez un grand saut dans le temps et dans l'espace, venons-en au début du XXe siècle. Nous savons que à Paris, en particulier, de nouvelles révolutions picturales ont lieu, qui ont pour objet de, là encore, proposer d'autres formes de représentation sans la troisième dimension. Eh bien, on comprend en réalité que au Moyen Âge, pour revenir à cette peinture des primitifs, les artistes, parce que leur sensibilité et leur culture ne les menaient pas à s'intéresser peut-être aussi directement au monde extérieur, ils ont cherché des formules qui jusqu'alors n'avaient pas été essayées. Et je crois que c'est passionnant pour nous qui, avec le recul, pouvons voir ces différentes formes d'expression. Après tout, les primitifs, et vous l'avez souligné, la peinture des primitifs n'est pas si fréquente dans nos musées. Au fond, présenter une manifestation de cet ordre, c'est aussi proposer à nos visiteurs, aux amateurs qui nous entourent, une expression qui a existé autrefois et une expression qui avait ses propres formules. Donc c'est dans la variété, c'est dans une offre ouverte et plurielle que je crois nous pouvons vraiment comprendre la qualité première de cette peinture.
Un tout dernier mot, si vous permettez. C'est à vous, Nicolas Sainte-Fargarneau, que nous devons cette magnifique exposition. C'est vous qui l'avez voulu et mise sur pied. Alors, voulez-vous nous raconter comment vous avez déniché cette collection si remarquable et bien caché derrière un certain rideau de fer ?
Oui, pendant longtemps, la collection d'Altenbourg a été méconnue parce que, vous venez de le dire, la petite ville d'Altenbourg se trouve au sud de Dresde, donc vraiment toute au fond de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et pour ces raisons historiques et politiques, bien sûr, la circulation des personnes était difficile et par conséquent, l'appréciation de ces œuvres l'était tout autant. Alors, c'est parce que j'étais invité à Weimar pour le lancement d'une exposition que nous avons reçue ici à Jacquemart-André que j'ai tout à fait par hasard rencontré le conseiller culturel de France en Thuringe, qui est M. Thibaut de Champrie, que j'ai plaisir à saluer ici. Et il m'a interrogé sur les lignes de force de la collection Jacquemart-André. Je lui ai dit, bien voilà, c'est bien sûr la peinture italienne. Alors il m'a répondu, mais vous connaissez sûrement cette belle collection italienne qui est non loin de Weimar, à Altenbourg. Et peut-être à sa grande surprise, je lui ai répondu franchement que malheureusement, je ne la connaissais pas. Je n'avais pas eu l'occasion d'aller visiter cette collection. Il m'a proposé d'organiser un rendez-vous pour venir sur place, faire un tour du musée et vraiment regarder de près la collection. Ça a été fait, et lorsque vraiment j'ai découvert cet ensemble, j'ai été, abasourdi, stupéfait par la qualité de cet ensemble et le fait, évidemment, encore plus surprenant que longtemps, la collection a été mésestimée. Donc, de ce jour, j'ai été saisi par une conviction. Je me suis dit, mais quelle chance si nous pourrions proposer à notre public parisien un tel ensemble. Alors, nous avons discuté avec Madame Pendorf, la directrice du musée. Nous avons organisé un échange. Nous avons fait une exposition Jacques Marandré à Altenbourg. Et nous avons, de ce fait, en retour, l'extraordinaire privilège de pouvoir présenter aujourd'hui ces 40 panneaux de la collection d'Altenbourg au musée Jacques Marandré.
Merci. Merci infiniment, Nicolas Sainte-Fargarneau, de nous avoir consacré un temps précieux et de nous avoir fait voyager si loin dans le temps pour découvrir autant de merveilles. Je rappelle l'exposition « Les primitifs italiens », la collection d'Altenbourg du baron von Lindenau, se tient encore jusqu'au 21 juin 2009 au musée Jacques Marandré à Paris. Ce musée qui fut la demeure des collectionneurs Nelly Jacques Mar et Édouard André. Un musée aux collections d'art prestigieuses et qui déjà de son temps privilégiait la Renaissance italienne. À signaler également à nos auditeurs la parution du catalogue de l'exposition « Les primitifs italiens », la collection d'Altenbourg, que l'on peut vraiment qualifier de superbe, avec un avant-propos de Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut et président de la Fondation Jacques Marandré, ainsi que des préfaces de Bruno Monnier, président-directeur général de Culture Espace, et d'une contribution de Michel Laclotte, président-directeur honoraire du Musée du Louvre, sur les primitifs italiens au XIXe siècle.